se lever ce matin, comme un adolescent russe de la banlieue de Vladivostok. Ouvrir la fenêtre, ressentir profondément les moins 7 degrés comme une promesse de bonheur. Regarder plus haut, l'étendue grise, morne du ciel comme une promesse de bonheur. Et puis enfiler une chemise à fleurs, comme on irait à la plage, comme on hawaïrait la vie. Descendre l'escalier, puisque l'ascenseur ne marche pas depuis le 12 janvier 1976. Arriver à la station de bus fermée depuis 2 ans, espérer ce bus comme on attend un rendez-vous amoureux. Monter, jouer avec les stalactites comme avec des jouets, des hochets. Patauger dans la glace, la boue, comme un enchantement. Et puis marcher. Marcher puisque le bus s'est arrêté, faute Dieu des ailes. Marcher entre des barres d'immeubles lugubres, comme une haie d'honneur. L'enfant russe de cette banlieue de Vladivostok a dans le cœur le soleil qui ne fait pas dehors. Et nous, de quoi nous plaignons-nous ici, dans ce studio de Radio Nova, entre la guitare cajoleuse de Tito, les bons mots d'Atmen, le silence radieux de Christophe Méné, les mains d'Armel M, magique, sur les touches du clavier de la technique, et puis Thierry Paret, cet éternel enfant qui voit de l'actualité où nous ne voyons plus rien.
Radio Nova.
On a appris ce matin le...
Peut-être bonjour, c'est vrai.
Non, mais là, les gens sont choqués.
C'est parce que,
Pardon, mais les auditeurs, ici, par miracle, il y en
ils sont confus.
Ils sont perdus.
Moi, je suis perdu.
Ah, voilà. Non, mais on est...
Je suis choqué par ce manque de politesse.
Vous auriez espéré peut-être, mais pas grand-chose.
Non, juste bonjour à tous, bonjour à
tous.
La plus élémentaire politesse à mes...
Où sommes-nous? Qui sommes-nous?
Tito, vous dans le sud-ouest, vers Bordeaux, on le pratique beaucoup ce bonjour.
Bien sûr, on
c'est
se fait
essentiel.
La bise, on se serre la main, on se fait coucou.
Et là, il y a eu un petit... C'est comme une main, vous avez, comme si vous tendiez la main à Thierry Paret, qu'il a, il l'a nié, quoi.
Un vent.
Tu vois, Thierry, ce que t'as fait.
Bon, on a écouté les infos, mais peut-être plus exactement pareil.
On a appris ce matin le décès du grand avocat pénaliste Paul Lombard. En plus d'un demi-siècle, il est intervenu dans plusieurs des grands dossiers de l'histoire criminelle française, de l'affaire de Bruet en Artois à celle du petit Grégory. Le Parlement turc...
À partir de demain, on vous donnera aussi la liste des vivants, parce que j'ai l'impression qu'on a un jour un mort.
Bah, il y en a un qui est bien vivant, hein. C'est le président turc Erdogan, le Parlement turc. Le Parlement turc a approuvé en première lecture une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Erdogan. Alors ce dernier aura le pouvoir, si le texte est adopté définitivement, aura le pouvoir de nommer ou de limoger les ministres, tandis que le poste de Premier ministre sera supprimé pour la première fois dans l'histoire de la Turquie, enfin je veux dire depuis que le poste de Premier ministre existe bien sûr. La semaine dernière, une rixe avait éclaté au Parlement lors de l'examen du texte, les députés en étaient venus aux mains, l'opposition dénonce une dérive autoritaire du président. L'OTAN est obsolète, déclaration de Donald Trump, le président américain qui entrera officiellement en fonction vendredi, a accordé une interview à deux quotidiens, un quotidien allemand, Bild, et britannique, le Times. Il reproche aux États membres de l'OTAN de ne pas payer leur part de la défense commune et de se reposer sur les États-Unis. Il estime en outre qu'Angela Merkel a commis une erreur catastrophique en ouvrant les frontières de son pays aux réfugiés. Puis enfin, concernant le Brexit, il affirme que ce sera un succès et il espère conclure rapidement un accord commercial avec le Royaume-Uni. Le second débat de la primaire de la gauche hier soir à la télévision, donc en direct, un second débat plus animé que le premier, on va dire plus incisif, avec notamment des désaccords entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Les deux candidats se sont affrontés sur l'accueil des migrants ou encore sur la légalisation du cannabis. Vincent Payon aussi est sorti du bois hier. Il a également, concernant plutôt les réfugiés et les propos que Manuel Valls a tenus à Munich lorsqu'il avait critiqué la politique d'accueil d'Angela Merkel. Arnaud Montebourg, quant à lui, est resté un peu plus en retrait. Comme lors du premier débat, plus de 1000 téléspectateurs ont été interrogés après l'émission. C'est Arnaud Montebourg qui a été jugé le plus convaincant, à hauteur de 29%. Mais, chez les sympathisants de gauche, c'est Benoît Hamon qui a été jugé le plus convaincant, à hauteur de 30%. Il devance Manuel Valls et Arnaud Montebourg.
Ça sent bon les sondages dont on va en avoir. Il vient du petit sondage.
Ouais, il n'y en aura pas pour longtemps pour ce qui concerne la primaire, parce qu'il vote la semaine prochaine.
Il y aura des sondages fous. Quel est votre Hamon préféré? Alors, il y aura d'autres membres de la famille. Enfin, des...
François Hollande, lui, il n'a pas regardé ce deuxième débat
c'est
de la primaire.
Hamon.
Pardon, un jeu de mots tout de suite.
Oui, bah, il fallait.
C'est Marcel Hamon. Au milieu des infos.
Au milieu des infos, quand ça claque.
Alors, c'est un service qu'on doit à l'auditeur, les infos. Pardon.
faire ça, on peut pas faire ça.
Je suis d'accord, Thierry.
Ah oui, bah,
non, je suis d'accord, Thierry. C'est pas nous, hein, Thierry. C'est pas nous.
Non, mais ça, tu vois, Edouard, ouais. Tu peux pas laisser faire ça dans l'original. C'est pas possible.
Thierry, je paye. Non, c'est un service que rend Thierry Paret à l'auditeur.
Tu vois, tu comprends, Edmond, c'est quand même important.
On peut pas mettre partout ce qu'on appellerait de l'humour. Oui, c'est un bon dos. Je vous prie de m'excuser si vous nous écoutez.
Il n'y a pas de souci, Edouard. Je sais que c'est pas de votre faute.
Non, moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Pardon, on reprend.
François Hollande n'a pas vu, lui, ce deuxième débat de la primaire. Il a préféré aller au théâtre voir Michel Drucker. L'Élysée a par ailleurs démenti hier plusieurs rumeurs, suggérant que le chef de l'État pourrait au final soutenir Emmanuel Macron. La solution à deux États réaffirmée dans le conflit israélo-palestinien. À cinq jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, François Hollande a clos hier à Paris une conférence internationale qui a rassemblé quelques 70 pays, sans les Israéliens, sans les Palestiniens non plus. La déclaration finale de cette conférence, elle a mis en garde contre toutes les parties contre l'adoption de mesures unilatérales susceptibles de compromettre la paix. Et on notera les réserves anglaises sur cette conférence. Selon Londres, les États-Unis doivent rester le garant ultime de tout accord entre Israël et l'autorité palestinienne. Sixième producteur mondial de pétrole, le Canada doit progressivement mettre un terme à l'exploitation des sables bitumineux d'Alberta et cesser sa dépendance aux hydrocarbures. Déclaration du Premier ministre libéral du pays, Justin Trudeau. Le mondial de handball, l'équipe de France a battu la Norvège hier 31-28 et se qualifie pour les huitièmes. Elle affrontera les Russes demain. La Ligue 1 de football, Monaco est allé s'imposer 4-1 hier soir sur le terrain de Marseille en clôture de la 17e journée. Monaco prend la tête du classement. Nice n'a pu faire que match nul, 0 partout face à Metz. Et si tout se passe bien, après 70 jours en mer, Armel Lecléache et Alex Thompson devraient arriver au Sable d'Olonne jeudi dans la journée. Armel Lecléache est toujours en tête, mais Alex Thompson est en train de fondre sur lui. Il est en embuscade, comme on dit. Les deux hommes sont séparés par 100 000 seulement, c'est pas beaucoup. Jérémy Bayou, lui, est troisième.
Merci beaucoup, Thierry Perret. Oui, on a vu ça, que François Hollande était un spectacle de Michel Drucker le soir de la
première. Il revenait du Mali, en plus.
Et il a dit cette phrase, quand même assez drôle, il a dit « Non, non, mais le débat de la primaire, ce soir, je préfère aller voir le spectacle de Drucker, mais le débat, je le verrai en replay. » Je trouve ça, c'est très très précis, on imagine le mec qui a le temps peut-être de retourner sur le site de France 2, d'aller voir en replay.
On lui a enregistré quand même.
Dis donc, non, vous êtes un fin chroniqueur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un enregistreur, c'est peut-être l'ancien cireur de pompe de le mec qui a vraiment, on dirait un peu une émission, un peu de chansonnier tout à coup. Ben oui. D'autres choses comme la fine fleur des chroniqueurs de l'info. Ils arrivent non pas de leur correspondance, mais pour la plupart de chez eux. Ils sont appelés à y retourner. Christophe, Atmen, Tito, qu'avez-vous noté dans la presse ou sur le net ce matin ?
Si on revient sur le Michel Drucker, il y avait Laurent Gérard sur scène, qui était une surprise pour François Hollande. Il a dit « Je vais vous imiter François Hollande » et il a fait rentrer Laurent Gérard, Michel Drucker. Ce qui a vraiment fait peur encore plus à François Hollande.
Ce qui est Hollande. Bien, c'est après tout, il dit « Quel humour il a quand même, quelle autodérision !» Voilà, oui. Je trouve que ça serait bien d'en avoir aucune autodérision. Christophe ?
Moi, j'ai une information capitale. Voilà.
Est-ce qu'on l'écoute ou pas ?
Oui, on est obligé.
Bon, c'est peut-être bien de l'écouter parce que c'est quand même important. Oui. De faux policiers ont volé la Porsche de Florent Pagny ce week-end. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Montfort-Mallory. Voilà. Une Porsche 911 Turbo. Oui. Donc déjà, ça craint. Les deux faux flics donc, l'ont arrêté alors qu'il était au volant et l'ont menacé avec un pistolet. Et il n'a pas cherché à résister.
Mais est-ce qu'il leur a dit « Vous n'aurez pas ma façon de penser » quand ils ont pris la Porsche ou pas ?
Non. Qu'est-ce que c'est que cette émission avec des petits colibés sur l'actualité ?
Mais non, mais c'est
pas du tout. C'est une vraie information. Vous n'aurez pas ma façon de...
Alors, on va la...
Tito, non, vous aviez quelque chose à dire.
Sur quoi ?
Mais c'est un petit tour général des choses à dire qui n'ont rien à voir.
Mais moi, j'avais des choses ce matin. Mais j'ai un petit peu oublié. J'ai regardé la presse, mais là, j'ai l'esprit d'escalier. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est la météo de Tito. Ah, tiens, il y a Italie. Tito, pour qu'on comprenne, c'est pas enregistré, parlez-nous un petit peu.
Alors, mais ce matin, il y a que le sud-ouest, au bord de l'eau, qu'on est en positif.
Donc, effectivement,
dans
c'est
le
pas,
centre, on est en négatif.
C'est pas enregistré. Donc
et en plus, il neige à Strasbourg, à Clermont et à Grenoble. À Paris, il fait moins d'eux, mais à Nîmes, il fait aussi moins d'eux. C'est partout comme ça dans la France, aujourd'hui. Je crois pas qu'il pleut, mais oui, aujourd'hui c'est soleil et neige. Mais oui, aujourd'hui c'est soleil et neige, aujourd'hui il fera moins d'eux. Et à Orléans, moins un, et à Dijon, moins trois, et à Lyon, moins deux, et à Brest, il fera 10.
Merci Tito, mais n'oubliez pas de dire 2 moins 2 à 3. Vous voyez, il faut passer du bleu-rouge quand vous lisez sur le Parisien la météo. Merci maestro.
Ça caille quand même.
Mettez envoyé un 10 parce que là, ça...
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ? Ah, ah, ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
On n'a pas mis le générique de l'émission, donc les gens ne savent pas que ça a déjà commencé, donc il faut le faire.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada, la queue du rat.
Je vous jure, ça peut le coup.
En ce lundi, tout se met en place petit à petit. Dominique Reynier, avant de nous parler du vote blanc, s'est installé devant 3 cafés, 4 micros et des admiratrices. Jacques Souvent est parti dans la rue de chez lui à Montreuil. On est là, le mercato se met en place. Tito, vous préparez déjà votre météo de 7h30.
Tu peux changer, oui.
Atmen, vous êtes baladé à rue de Paris, vous êtes énervé.
J'ai une petite colère, je trouve qu'il y a un peu trop de magiciens en ce moment.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de magiciens?
Il y a trop de spectacles de magie avec des magiciens qui nous font peur, voilà, avec qui ont les yeux révulsés comme Dominique Webb et qui nous disent, venez, il y a Langevin, je ne sais pas qui c'est, Kamel le magicien qui s'est coupé le torse, qui l'a mis sur le côté et qui nous dit, regardez, il y a un truc.
Il ne faut pas le faire, ça.
Quoi?
De se couper le torse.
Mais il faut prévenir.
Ou alors il faut prévenir. Ouais.
C'est dit, c'est fait avec un truc. Il y a 5 illusionnistes de Las Vegas.
D'accord avec vous.
Voilà,
mais de Las Vegas.
Ça va trop loin. Oui, pourquoi est-ce qu'ils vont? Est-ce que je vais faire des tours de magie à Las Vegas? Oui, c'est ça, tout ça.
Et en plus, ils ringardisent un petit peu les anciens magiciens qui, avec le petit lapin ou la femme coupée en deux, nous faisaient un peu rêver. Là, on arrive, on fait disparaître des voitures, des salles entières, on enfume tout le monde.
Mais est-ce qu'il y a un truc, vous croyez?
Ah oui, je pense qu'il y a un truc.
Mais à partir du moment où on le sait, forcément, c'est moins...
Ah ben, c'est décevant, c'est moins bien, quoi.
C'est moins bien.
On serait pris pour des imbéciles, c'est ce que tu veux dire?
Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une manip, bien entendu.
Il y a une manipule, un peu. Plus les hommes politiques qui sont
j'attendais qu'après une sorte de parallèle avec les politiques
sur des électeurs de magie. Qui nous font croire que...
Il y en a qui vont disparaître.
Une bonne émission de chansonnier ce matin.
Très, très bonne.
Très bien. Oui, ils nous font des tours de...
Ils nous font des tours de passe-passe.
Christophe Méné.
Oui, alors justement, pour rester dans la politique, moi je voudrais parler de la royauté, voilà, à travers un ouvrage pardon, qui est une fiction qui narre la vie d'un roi imaginaire.
Vous venez nous présenter un livre.
Voilà, je vais présenter un livre.
Ça fait plaisir.
Bah oui, pour une fois.
On va noter.
Donc la vie de ce roi qui est en fait un condensé de tout ce qu'on voudrait connaître sur la vie d'un souverain. Hein. Par exemple, on apprend qu'il est marié à une femme, donc qui est la reine, et qui est en même temps sa cousine. Voilà. On y apprend également qu'il a du mal à faire autorité sur ses propres enfants, ce qui était assez étonnant. Et puis aussi des passages très poétiques. Symbolisée par la présence d'une vieille dame, voilà, qui représente à elle seule la République, peut-être. Voilà, c'est très très bien fait, c'est très bien illustré. Donc voilà, il y a même un moment où les éléphants sont attaqués par des rhinocéros.
Des éléphants.
Tout le monde se mobilise pour faire.
C'est des éléphants.
Oui, c'est des éléphants. Le roi est symbolisé par un éléphant. Et tous les sujets sont.
C'est Babar.
C'est le roi Babar.
Vous nous conseillez
à cette heure.
Non, laissez-le-moi. Je vais m'en occuper personnellement.
J'y ai cru.
Je m'en occupe personnellement de ce problème. À 7h17, à lundi 2017, vous nous proposez de lire Babar.
Oui, parce que je n'avais pas eu d'autres idées.
À moi, tu me fais ça.
Non, mais parce que j'avais eu des idées au départ, mais je me suis dit...
Tu nous envoies acheter Babar et dire lisez Babar, il n'y en a que ça à foutre.
Mais parce que c'est bien foutu en même temps.
Prends 10 secondes d'avance. Vas-y, va chez ton Baba commandant, il va l'apprendre ta rubrique. A tout de suite avec Dominique Reynier. Bonjour Dominique Reynier.
Bonjour Edorbert.
Dominique, vous avez regardé le débat des primaires socialistes?
Oui.
Ça vous intéressait?
Oui, moi, ça m'intéresse. Hein. C'est, en même temps, c'est mon métier. Hein. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve que ce sont des débats qui... Écoutez, je fais une comparaison. On a peut-être suivi, enfin, celles et ceux qui nous écoutent, des morceaux du débat aux États-Unis pendant la présidentielle américaine. C'était vraiment lamentable. C'était des insultes qu'on se jetait à la figure. Moi, je trouve là, les primaires à gauche, les primaires à droite, ben voilà, ça a de la tenue. Ce sont des arguments, des idées. Chacun pense ce qu'il veut, mais... C'est plutôt digne.
Il y a du fond, on entend vraiment des programmes.
Il y a du fond, chacun juge après avec ses convictions et puis ce qu'il a pu regarder en s'y penchant. Mais il y a du fond, oui, indiscutablement. Et puis ce sont des traditions différentes qui s'expriment, des systèmes de valeurs. On a de la matière pour réfléchir comme citoyen.
On n'est pas juste dans le commentaire du costume ou du
voilà, regard. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas... Non, il y a des... Moi, je vous vois très bien. Et puis, c'est assez pondéré. Enfin, après, il faut aimer la pondération, mais en politique, oui, ça me paraît préférable quand même. Je trouve qu'il
oui, en politique, voilà. Mais est-ce qu'à la télévision, la pondération pèse
Non, exactement, vous avez raison. Est-ce que c'est télégénique, par exemple? C'est un grand sujet. Est-ce que la démocratie pondérée est télégénique? C'est pas sûr. Bon, moi, je me souviens d'un film qui m'a beaucoup marqué de Kazan, Un homme dans la foule, où on voit bien que la télévision aime beaucoup les formes radicales de politique, quoi. Oui. Une espèce de risque là.
On l'a vu récemment dans d'autres pays, des phrases courtes, radicales.
Oui, à n'importe pièce.
Le temps de contredire et de dire la vérité, il est trop tard.
Exactement. Puis, ouais, oui.
Alors, on parlait du vote blanc. Il va y avoir une nouveauté lors des prochaines présidentielles. C'est que le vote blanc, c'est ça, Dominique, qui était comptabilisé dans les non exprimés ou suffrages nuls, ça va changer.
Voilà. Alors, si on repart depuis le point de départ, on va voter à l'élection présidentielle pour choisir quelqu'un, donc une présidente, un président. Il y a des votes blancs et nuls, c'est-à-dire qu'il y avait un paquet dans lequel on mettait différents votes qui n'étaient pas considérés comme exprimés. Ce qu'on appelle un vote exprimé, c'est un vote, on met un bulletin avec un nom dessus, il exprime un choix. Donc on est en faveur de tel ou tel candidat, on exprime une préférence. C'est ça qu'on va comptabiliser pour savoir qui a gagné. Le vote blanc était mélangé au vote nul, ce qui était une injustice, parce que le vote nul, c'est au fond, c'est une erreur. Un bulletin sur lequel on va écrire « Et vive mon champion » pour le pousser un peu plus, ça fait un vote nul. ou alors, on trouve de tout dans les votes. Ah, ça a été étudié, c'est fascinant, parce qu'on trouve de tout, des insultes évidemment, etc. Donc c'est annulé, ça n'est pas comptabilisé. On mettait aussi les enveloppes vides, avec ces paquets bulletins nuls, ou les enveloppes qui contenaient un bulletin blanc. Et donc c'était assez problématique. Depuis 2014, ça a été modifié, j'allais dire réparé, c'était demandé fortement. Il y a les votes blancs qui sont distingués. Le vote blanc, il va se matérialiser de deux façons possibles. Soit un bulletin blanc dans une enveloppe, soit une enveloppe vide. Et ça sera comptabilisé comme des bulletins blancs et non pas comme des bulletins nuls. C'est important parce qu'on peut très bien aller au bureau de vote le jour du vote. Donc on ne s'abstient pas, on ne reste pas chez soi, on y va et on met un bulletin blanc. Ça veut dire quelque chose. Alors ça veut dire pour soi, hein, c'est compliqué d'interpréter, mais ça peut vouloir dire, écoutez, moi je salue la procédure électorale, je l'apprécie, je viens ici la respecter, mais je ne peux pas choisir, vous ne m'avez pas donné des candidats qui me conviennent, donc je vote pour la démocratie en fait, mais je choisis personne.
D'accord, mais si on rajoute quelque chose qui n'a rien à voir, ça devient un vote nul.
Nul.
C'est plus un
alors
vote
si sur
on rajoute une
blanc,
blague
voilà,
ou un troisième nom de quelqu'un qui n'y est pas, ça ne sera pas comptabilisé.
Voilà,
c'est très
pas.
Précis quand même.
Si j'écris Babar sur le bulletin blanc, par exemple, ce sera un bulletin nul.
Sauf dans le cas où il se présenterait lui-même.
Sauf Babar. Si Babar, ce qui est, il y a une rumeur à ce sujet.
Alors mais... soyons très précis, Dominique. Merci
sujet.
Beaucoup. Est-ce que là, pour le moment, donc, ça a été décidé, ça a été voté, ça ?
Alors ça a été adopté. Il y a un petit sujet maintenant, enfin un gros sujet même, savoir si les bulletins blancs sont comptabilisés. Donc pour 2017, c'est réglé, ça sera comptabilisé à part, mais pas comme un bulletin exprimé.
Ah oui.
Il y a une demande maintenant qui émane de mouvements associatifs et militants pour que ce soit reconnu comme un bulletin exprimé. Pour qu'on recalcule le résultat, ça paraît un peu technique et je ne vais pas pouvoir l'expliquer en deux secondes, mais pour que le résultat de la présidentielle, en l'espèce, soit tienne compte des bulletins blancs. On ne le fera pas en 2017, mais si on le faisait concrètement, ça voudrait dire que ça ne changerait pas le nom du vainqueur. Simplement, son pourcentage serait inférieur à ce qu'il va obtenir. Donc, ça l'affaiblirait
pour démarrer. Il pourrait être minoritaire et élu, alors.
Oui, c'est souvent le cas maintenant, malheureusement. Mais il pourrait être très minoritaire et élu. Et on dit, les militants pour la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, disent que ce serait un avertissement pour lui. Il saurait qu'il a été élu avec des mécontentements. Ils ne le savent que trop aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui.
Et donc, sa marge serait plus étroite et sa légitimité plus faible.
Atmen, oui.
Donc, vraiment, le bulletin blanc, c'est une enveloppe avec un papier blanc à l'intérieur.
Voilà. Papier blanc ou rien.
Ou rien.
D'accord. Si vous voulez mettre une petite photo de votre fille, ça sera bulletin mignon, ça. Merci. Merci beaucoup, Dominique Reynier.
Merci, c'était très précis.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Un tas de faussaires prédits hors du cortège. JP Manova, il est bon, JP Manova, il était venu ici un matin. Tito, ça va ?
Ouais.
On était avec Tito, on est parti à Arles présenter mon film Ouvert la nuit ce week-end. C'était quand jeudi soir.
Oui.
C'était bien, Tito. Merci parce que vous avez joué après pour les gens. Vous avez joué de la musique.
Ouais, on a fait une petite bringue. C'était chouette.
Alors, si vous allez voir Ouvert la nuit, par exemple, aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que Tito joue après. Hein.
Oui. Non, en fait, ça dépend où c'est que vous êtes.
Mais il y a eu une paella, il paraît,
oui,
après, derrière.
Oui, parce qu'il fait de la paella. Ah, oui, on va la mettre en ligne, votre recette de paella, Tito.
Ah ouais, avec un grand plaisir.
Qu'est-ce qu'il faut dans la paella pour oui. 6 personnes comme ça
allez. On voilà. Ah,
pour voilà, 6 comme personnes. Ça. Des calamars.
Il faut du riz, puis après... Après les restes, ce que tu trouves à droite, à gauche.
Voilà. Non, mais dans le filet, voilà. Par exemple.
Non,
dans
tout
le...
simplement.
Du pâté.
Non, pas du pâté.
Ne mélangez pas tout,
la
c'est
sienne,
important.
Il y avait des crevettes, il y avait du poulet. T'as mis voilà. Du lapin ou pas?
Voilà, un voilà. Peu de lapin, un peu de poulet.
Alors, pour les amis des animaux, on ne le tue pas, le lapin.
Non,
non, non, bien sûr.
On va chez le prestigitateur, on le sort du chapeau.
Et le magicien. Voilà.
Le petit camel, le magicien.
Voilà, mais je pense que les gens ont bien noté cette recette. Vous avez fait un truc qui m'a épaté. On était dans un restaurant, vous avez demandé le fond de sauce.
Ouais.
Un fond de bouillabaisse.
Ouais, demandé. Parce que comment c'était
il
bon.
Il a sympathisé avec le cuistot et à la fin dit tu aurais pas un fond de bouillabaisse mec.
Comme ça, pour agrémenter la paella, comme oui. Ça, elle était meilleure.
Bien joué, ah, man. Ouais, bien joué, respect. Vous êtes très bon dans Ouvert la nuit, Christophe Méné. Vous avez des bons échos de votre participation
merci.
Dans mon film.
Merci beaucoup. Oui, j'ai c'est des vrai, très bons hein. Échos. Ouais.
Vous êtes un très bon acteur.
Merci, c'est grâce à vous.
Excusez-nous, si vous nous écoutez, on se passe un petit peu dans mon cœur. On joue à vous, êtes formidable vous aussi. Atmen, je ne vous trouvais pas tant.
Oui, moi aussi, je me trouve génial, mais grâce à vous, surtout
oh,
grâce à vous.
Pas, oui,
direction enfin, d'acteur, une précision
j'aime
dans
donner,
le geste.
J'aime donner, puis moi je trouve que Thierry Paresse s'améliore de jour en jour mais grâce
c'est,
à qui
c'est grâce à vous.
C'est possible, oui, c'est peut-être, vous, peut-être.
Ouais, clairement.
Écoutons d'ailleurs le journal de Thierry Paresse.
Après 3 semaines de trêve, les VTC sont de nouveau appelés à se mobiliser ce lundi à Paris, plus précisément place de la Bastille ce matin. Donc en ce moment, les aéroports ne seront pas concernés. Pourquoi ? Eh bien parce que selon les syndicats des VTC, c'est trop impopulaire de bloquer les aéroports. Les chauffeurs continuent de réclamer une hausse de leurs revenus. Le second débat de la primaire de la gauche hier, second débat plus animé que le premier, plus incisif, avec notamment des désaccords entre Manuel Valls et Benoît Hamon sur l'immigration. Notamment, les deux candidats se sont affrontés sur l'accueil des migrants ou encore sur la légalisation du cannabis. Vincent Payon est également sorti du bois concernant les réfugiés. Arnaud Montebourg, lui, est resté davantage en retrait, sauf peut-être lorsqu'il a interpellé l'une des journalistes qu'il interviewait, Laurence Ferrari, en l'occurrence de Itélé, à propos de son patron, Vincent Bolloré. François Hollande,
merci,
lui, n'a pas regardé.
Merci, patron.
Qu'est-ce qu'on est content de bosser chez vous.
Maintenant, on est au chômage.
François Hollande, lui, n'a pas regardé ce débat. Il le regardera donc en replay, visiblement. Il a été au théâtre, à la place, voir Michel Drucker. Et l'Élysée a démenti hier plusieurs rumeurs, hein, suggérant que le chef de l'État pourrait au final soutenir Emmanuel Macron. La solution à deux États réaffirmée dans le conflit israélo-palestinien. À 5 jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, François Hollande a clos hier à Paris une conférence internationale qui a rassemblé quelques 70 pays, sans les Israéliens ni les Palestiniens. On notera les réserves anglaises sur cette conférence. Selon Londres, les États-Unis doivent rester le garant ultime de tout accord entre Israël et l'autorité palestinienne. L'OTAN est obsolète, déclaration de Donald Trump. Le président américain, qui entrera officiellement donc en fonction vendredi, a accordé une interview au quotidien allemand Bild et au quotidien britannique Times. Il reproche aux États membres de l'OTAN de ne pas payer leur part de la défense commune et de se reposer sur les États-Unis. Il estime en outre qu'Angela Merkel a commis une erreur catastrophique, je le cite bien sûr, en ouvrant les frontières de son pays aux réfugiés. Le Parlement turc approuve en première lecture une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier aura le pouvoir de nommer ou de limoger les ministres, tandis que le poste de Premier ministre sera supprimé. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du président. 32 partisans de la cause tibétaine ont été interpellés par la police suisse hier à Berne en marge d'une manifestation pour la défense des droits de l'homme au Tibet, au moment où le président chinois Xi Jinping entamait une visite d'État en Suisse. Le linguiste Zhu Yongyang est décédé à Pékin ce week-end. Il avait 111 ans. Il était rien de moins que l'inventeur du pinyin, c'est-à-dire la transcription du mandarin, sa romanisation pour permettre sa lecture par ceux qui ne maîtrisent pas les caractères chinois. Le système a été introduit dans les années 50. Il s'est imposé dans le monde. Ce système a permis aux aveugles chinois, par exemple, de lire le braille et aux caractères de pouvoir s'écrire sur les claviers d'ordinateur, tout simplement. Autre décès, celui du grand avocat pénaliste Paul Lombard. En plus d'un demi-siècle, il est intervenu dans plusieurs des plus grands dossiers de l'histoire criminelle française. On pense à celle du petit Grégory. Le mondial de handball avec l'équipe de France qui a battu la Norvège hier 31-28 et qui se qualifie pour les 8e de finale, ce sera contre les Russes demain. La Ligue 1 de football, la fin de la 20e journée. Monaco a battu Marseille hier soir à Marseille sur le score de 4-1. Et puis, vous l'avez sans doute remarqué, si vous avez déjà mis le nez dehors, il fait froid. Ça va s'accélérer le froid encore. Il va faire encore plus froid
encore
dans les
plus froid.
À venir.
Tenez, interaction avec les auditeurs. Écoutez ce son. Si vous savez comment on produit ce son dans le studio, appelez 01 43 07 58 85. Je vous ferai écouter le son. 01 43 07 58 85.
Et qu'est-ce qu'on gagne?
Oh, écoutez, on gagne. Toujours gagner, vous avez une idée des choses qui seraient... La vie n'est pas une compétition, Atmen. Okay.
Pardon.
Voilà. Léo, vous êtes content de votre stage ici ou pas?
C'est génial.
Avant, on avait une stagiaire donc, de l'autre sexe, c'est-à-dire une stagiaire féminine, mais elle est partie à la suite de malversations.
Comment? C'est à cause de...
Oui, c'était Noémie qu'on aime beaucoup. Mais enfin, elle a
c'est, à
la
cause de Christophe.
C'est à cause de Christophe. Christophe. Et là, on a Léo. Léo, c'est un stage de combien de temps alors?
Je suis là pour 7 mois jusqu'en juillet.
C'est rémunéré ou pas?
Bah, bien sûr.
Il y a intérêt quand même. Attends. Bon, alors là, vous nous avez apporté d'un café, mais il n'y a pas que ça quand même.
Il n'y a pas que ça.
Il y a des trucs plus
moi, j'ai de génie au quotidien.
Au quotidien, et c'est très agréable d'aider.
Il a de génie au quotidien pour attirer les oiseaux, les pigeons. Il apprend par procuration.
Jacques souvent dans la rue. Merci Léo. C'est Micheline Dax. Ça siffle.
Ah oui, il y a...
Ça siffle dans la rue. Peut-être un oiseau.
Bon, ça suffit maintenant. Alors, et moi, je sifflais dans la rue tranquillement. Et puis, il y a un autre gars qui a répondu en sifflotant. Alors, je suis allé vers lui. Et c'est Sébastien dit Le Merle. Il m'a dit, on m'appelle Le Merle sur les chantiers. On m'appelle Le Merle sur le chantier, exactement. C'est tout à fait ça. Voilà.
Et vous sifflez tout le temps?
Je siffle tout le temps. Et voilà, ça met de la joie, de la bonne humeur. Et vas-y, on y va.
Ah oui, ça marche. Sébastien, ça marche. Bonjour. Vous êtes sur quel bonjour. Chantier? Vous êtes en extérieur, alors?
Alors, nous, on fait de l'intérieur. On fait tout ce qui est aménagement intérieur. Ça veut dire aménagement de placards. On fait les combles. On fait tout ce qui s'ensuit, tout ça. Carrelage, faïence, voilà.
Sébastien dit Le Merle, vous pratiquez votre sifflement en intérieur, fenêtre fermée, donc en travaillant avec les résonances du carrelage et des lieux clos.
Exactement.
Ou vous pratiquez à la fenêtre ouverte pour faire profiter les cours de votre talent de siffleur?
On fait en profiter tout le monde. Des fois, on ouvre les fenêtres. Des fois, c'est fermé parce qu'on aime bien quand ça résonne. Donc, c'est voilà.
Je comprends bien. Dites-moi, Sébastien dit Le Merle, on part sur ce sont plutôt des mélodies connues, des mélodies qu'on peut se rappeler, qu'on peut enchaîner avec vous, ou on est sur de la pure création musicale?
Alors là, je vous dis franchement, on est sur de la pure création. Je siffle par rapport à mon humeur. Ça veut dire que si je suis de bonne humeur, ça va être un sifflet tranquille, et si je suis énervé, ça siffle fort.
Alors justement, Sébastien dit Le Merle, est-ce qu'il y a un sifflement qui exprimerait de la tristesse, de la contrariété? Est-ce qu'on peut l'écouter?
Alors la tristesse, ça ferait ça.
Ah oui. Gros coup de bourdon, là. Oh, j'ai envie de crever. Sébastien dit Le Merle, imaginons qu'il y a de l'embellie. Que, par exemple, qu'on s'aperçoit que Trump, c'était pour de rire, tout à coup.
Ah bah alors là...
Oui.
Bah ça va mieux.
Et maintenant, Sébastien dit Le Merle dans 22 les gonzesses meuvent là.
Oh, la vache. Alors là...
Ah oui, la vache ou d'autres alors animaux. Là... Ah oui, là, elles arrivent, elles accourent.
Il devient tout rouge.
Merci beaucoup, Sébastien dit Le Merle.
Pas toi.
Vous êtes notre petit soleil de ce matin.
Ah, c'est super, merci.
Salut. Et maintenant,
je vous écoute.
Ah non, c'est vous. T'es une ambiance super courtoise.
J'imagine le contremaître, il s'avait dit non, je t'ai payé pour siffler, non? Un truc.
Non, mais c'est clair, moi, là, on a mis de la joie là.
Siffler pour se plaindre, siffler pour se réjouir, siffler pour occuper sa bouche, pour occuper ses oreilles, siffler pour se donner du courage, du cœur à l'ouvrage, siffler pour faire taire les rumeurs, les conneries, les colères, les tristesses, siffler, s'enchanter, s'automusicaliser. Devinez quel oiseau j'imite ?
Le merle. Sébastien dit Le Merle.
La pie.
Je ne vous le dirai jamais.
Ah. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Trop irrité. Tu vois, on peut commencer à parler sans déranger la chanteuse, tu vois?
Oui.
Tu l'aimes bien, cette chanteuse?
Oui.
Tu pourrais danser sur ses chansons?
Je sais pas.
Toi, tu écoutes de la musique, des chansons ou pas?
Pas souvent.
Il y a des chansons que tu connais? Comme quoi?
Zapper comme jamais.
Tu dis, ah, Zapper comme jamais de Maître Gims, oui.
Ouais.
Tu sais que c'est un grand maître, hein? C'est un maître en gimserie, hein, tout ça, oui. Zapper comme jamais. Bon, bah, écoute, Iris, on va peut-être dire aussi un poème, non? Ou tu préfères dire Zapper comme jamais?
Un poème.
Il est comment le... Sapé comme jamais, tu connais les paroles?
C'est comment?
Bon, on va faire le poème. Alors, maître Gims, il ne faut pas le réveiller à cette heure-là.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
On va.
Alors, Iris, on va jouer à vrai ou faux, d'accord? Tu me dis vrai ou faux. Tu t'appelles Iris.
Oui.
Vrai. Tu as 5 ans.
Vrai.
Tu es en CM2.
Pas vrai.
Tu sais conduire une voiture?
Non.
Ah bon? Ah, je suis déçu. Alors, et ton poème, il s'appelle comment?
Au revoir papa, au revoir maman.
Eh bien, on va l'écouter. Je crois que tu sais que tu es la plus jeune enfant qui vient nous dire un poème ce matin, à part Christophe Méné, qui a 4 ans. Alors, on t'écoute, ma chérie.
Au revoir papa, au revoir maman. Je suis un grand maintenant. J'ai mes copains, j'ai ma classe. À l'école, j'ai ma place. Je fais tas de choses sans vous, mais je vous raconte pas tout. J'aime bien vous retrouver à la fin de la journée.
Super, dis donc. Bravo. Formidable. Bravo. Ça, c'est pas du maître Gim, je te le dis.
Ah non.
Est-ce que toi aussi, tu as plein de choses que tu racontes pas à tes parents le soir? Comme dans la poésie? Des secrets à l'école?
Oui.
Ah, eh bien, tu peux nous les dire, il n'y a que nous deux, là. Personne ne t'écoute. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à ta maman que tu as fait à l'école, par exemple?
Les lettres en attaché. Fallait déjà faire sur une feuille et après fallait faire toutes les lettres et après fallait faire tout un quadrillage tout autour de la feuille. Après on allait jouer.
Après vous êtes allé jouer parce que tu es en maternelle grande section et on apprend déjà les lettres attachées. Voilà. Eh bien, je vais te laisser aller attacher quelques lettres, et puis nous allons en détacher. C'était pour terminer sur une note poétique aussi. Oui. Merci, ma chérie Iris.
De rien.
Au revoir, bravo. C'est Luc Donat, il est bien, Luc Donat.
Il vous plaît?
Oui, je... Voilà. Alors... Les Dark Daughters qui sont là, cette chorale, ce groupe de musique ukrainien, elles sont magnifiques. Vous êtes déjà. You have makeup on? Or you are always like that? Non, parce qu'elles ont des visages blancs. Des tatouages. Elles ont le visage entièrement blanc, comme des pierrots. C'est magnifique. Une incursion dans le studio de six jeunes
filles. Et
kabuki théâtre.
C'est
aussi.
Un peu du théâtre kabuki, un peu des geishas, beaucoup d'inspiration. It's only women only.
Yes, only women in a group.
Good
and a great man, our director, whose name is Latroyski, who is our father,
directeur.
And he's always with us.
C'est leur père. It's your spiritual father or physical father?
Spiritual
leur père spirituel est toujours avec. Il est là, the guy with a moustache. Il y a un type avec une moustache. Une des plus belles moustaches que j'ai vues de ma vie, monsieur. One of the nicest moustaches in the world, no?
Wow. One of the greatest artists in the world.
Et un très grand artiste aussi qui est là. Alors, ça va être, vous allez chanter en live tout à l'heure. On a beaucoup de chance de vous avoir. We have lucky to have you.
Merci.
Est-ce que je peux avoir un dernier son avant que vous alliez prendre un café? Can I have a last song before you go for a coffee? Attention.
Song?
Un petit extrait? Un petit comme petit ça, extrait. Comme ça, froid, elle vient d'arriver avant. Water, merci. Allez vous préparer pour tout à l'heure. On a la chance de les avoir pour un live avec des instruments. Thank you very much. Merci. À tout de suite. C'est une incursion superbe dans le studio. Voilà, reprise en main journalistique totale.
Moi, j'ai adoré votre traduction en anglais.
Oui, vous avez vu, merci.
À la Nelson Montfort, j'ai adoré.
Merci, à tout de suite. Café, cigarette pour ces dames, à boisson forte. et tout ça. Pendant ce temps-là, cher Thomas Baumgartner, nous reprenons ce
cher
studio.
Cher Edouard, oui.
Façon, cette...
La poigne de fer dans un gant de velours, la voilà. Vôtre, évidemment, non, bien
vous,
entendu.
Oh, bah, donc, et puis, on a la chance d'avoir le professeur Durand, Jean-Marie Durand, spécialiste de la musique, spécialiste de l'histoire, si, si, vous êtes spécialiste de tout, et spécialiste du punk. Vous êtes un spécialiste du... Vous êtes spécialiste de tout, Jean-Marie Durand.
Non, mais
1977, c'est votre ouvrage.
Oui. Voilà, 1977, avec un sous-titre Année électrique. C'était un livre qui paraît il y a quelques jours chez Robert Laffont. Et alors, c'est une sorte d'exercice de style. Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-Marie Durand?
C'est-à-dire J'aimerais bien. Je n'ai pas la prétention, mais un exercice de style, ça me va. Oui.
Ayez de la prétention, Jean-Marie Durand. C'est
non,
très payant.
Disons plus modestement, plus objectivement, c'est juste une réflexion sur une année qui, il me semble, pour moi, c'est l'hypothèse que je mets dans le livre, qui est une hypothèse fragile, mais que j'essaie de tenir, qui est de dire que l'année 77 est une année clé. Dans l'époque contemporaine dans laquelle on est, une sorte d'année zéro, pour le dire un peu vite, c'est un peu évidemment vite dit, un peu caricatural, dans le sens où évidemment l'histoire, c'est toujours la longue histoire, comme dirait Brodel, enfin la longue durée plutôt. Évidemment, j'ai conscience de ça, mais si vous voulez, il me semble que cette année concentre énormément d'événements, à la fois dans la vie politique, culturelle, imaginaire, symbolique. Et si vous voulez, cette accumulation de petits événements qui se sont complètement comme ça succédés, dessine finalement ce que j'appelle moi une nouvelle scène existentielle. C'est un nouveau monde dans lequel on est aujourd'hui encore 40 ans après. C'est un peu l'hypothèse du livre, c'est-à-dire qu'on est un peu issu de cette année, comme si on était tous nés en 77. C'est une nouvelle scène existentielle qui serait marquée, si vous voulez, par le sentiment d'une perte et l'incertitude d'un renouveau. Je suis un peu dans cette articulation entre quelque chose qu'on a perdu et quelque chose qu'on recherche. Et c'est une tension à laquelle on est toujours, vraiment. Et c'est un peu l'idée du livre, qui évidemment n'est spécialiste de rien, puisque par définition, je le revendique. Comme disait Marguerite Duras dans un film magnifique qui sort en cette année 77, qui s'appelle Le Camion, tout est dans tout. Et il y a quelque chose qui me semble important.
Et réciproquement.
C'est ce qu'elle a dit l'année suivante.
Voilà. Et donc, si vous voulez, pour moi, Star Wars, qui sort en 77, et le nouveau futur des punks, c'est la même, d'une certaine manière, c'est la même histoire. On est entre le nouveau futur et le futur des guerres. Il y a quelque chose qui est assez commun, qui est précisément une sorte de parfum crépusculaire qui se dégage de cette année.
Alors justement, Thomas et Jean-Marie, voyons ce qui s'est passé dans les faits, dans cette année 77, qui est emblématique.
Ça commence, le livre se termine d'ailleurs par une chronologie, et vous dites le 1er janvier paraît un livre du professeur Livenstein, Il n'y a pas de drogué heureux. Ouais. Et en fait, c'est la fin de l'insouciance, d'une certaine manière.
C'est ce que j'appelle l'installation de l'inquiétude. Il y a quelque chose comme ça, en effet, la perte d'une insouciance dans cette année-là, qui est très très fort. Alors, il se trouve que le livre de Livenstein, j'en parle, parce qu'en l'occurrence, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est aussi, entre guillemets, une de ses originalités, c'est qu'il y a un propos, une analyse qu'ils ont objective, un peu, disons, sérieuse. Et en même temps, j'ai voulu insérer dans le livre aussi des souvenirs plus intimes, plus personnels.
Vous dites « je ». La fin de l'insouciance, c'est aussi la fin de l'insouciance pour un enfant qui devient adolescent.
Il y a un peu d'égo-histoire dans ce livre-là aussi, parce que je me suis dit que finalement raconter cette année-là de manière un petit peu, disons, doctorale et savante, c'est peut-être un peu ennuyeux aussi, mais j'avais envie aussi de faire, comment dire, respirer quelque chose un peu plus sensible, parce que tout simplement, en 77, moi j'ai 11 ans, je suis en 6e, et c'est mine de rien, je pense, un peu aussi une hypothèse que je fais, c'est qu'à 11 ans, les souvenirs finalement sont presque plus vifs qu'on a 13 ou 14 ans, comme s'il y avait la construction presque d'un adolescent qui est en train de se dessiner, et j'ai des souvenirs très précis de cette année-là. Et en l'occurrence, le docteur Livenstein, pour parler de lui, il avait fait un livre, il était passé, je me souviens, chez Bernard Pivot, apostrophe, il m'avait extrêmement marqué, parce qu'il avait un physique incroyable.
Oui, il avait des cheveux.
Il avait grands cheveux, etc. Oui. Et il n'y a pas de drogué heureux, je trouve que c'était un livre très important de cette année-là, parce que c'est un best-seller. Et d'une certaine manière, ce qu'il raconte, on est encore là aujourd'hui, enfin, le débat sur les drogues et tout n'a pas fini. Et donc, c'était une manière un petit peu discrète de reparler de ce livre-là, qui me semble important. Voilà.
Alors, ce petit Français que vous étiez, que j'ai à peu près votre âge, donc on est là, on sort des années Pompidou.
Giscard
vient d'être élu. Il y a le choc pétrolier 2 ans avant, donc il y a une bascule aussi économique.
Complètement. D'ailleurs, l'année 77, c'est l'année où on atteint le million de chômeurs en France. Qui a un cap symbolique qui peut paraître aujourd'hui dérisoire. Peut-être que Hollande rêverait d'avoir un million de chômeurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que déjà, à l'époque, on est vraiment on rentre dans ce qu'on appelle la crise, dans laquelle on est évidemment encore aujourd'hui. Et c'est là, il y a un basculement très, très fort. Mais si vous voulez, même au-delà de ça, le million de chômeurs, c'est important. Mais ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est surtout aussi ce qu'on appelle le néolibéralisme aujourd'hui. En l'occurrence, c'est une longue histoire aussi, mais il se cristallise, il s'impose de manière très très forte dans cette année-là. Et je donne un exemple qui pour moi est assez symptomatique et illustre bien cette idée. C'est que Milton Friedman, qui est le grand économiste du néolibéralisme américain, qui est vraiment une figure importante.
Le néoclassique.
Voilà, exactement. Prend sa retraite cette année-là et décide de faire une série documentaire à la télé américaine pour CBS, je crois, qui s'appelle Free to Choose et qui est une sorte d'énorme éloge du marché, etc. Et si vous voulez, qui va contaminer l'imaginaire même américain. Et d'une certaine manière, quand Reagan arrive au pouvoir 3 ans après, en 80, l'idéologie s'est installée dans l'esprit des gens et le pli est pris. Et d'une certaine manière, on rentre dans cette voilà, dans cette nouvelle âge économique dont on n'est évidemment toujours pas sorti et dont on sent aujourd'hui qu'on est obligé d'en sortir. Parce que ça qui est intéressant, c'est que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que 77, c'est un tournant, une bifurcation, une tangente, comme on peut dire ce qu'on veut. Ce n'est pas une rupture, c'est un tournant, mais ce n'est pas une clôture. Et ça que j'essaie d'expliquer aussi, c'est que je pense qu'on est obligé aussi d'imaginer, et d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui dans tous les mouvements sociaux, politiques, etc., qu'on est obligé d'inventer une nouvelle scène, un nouveau décor, une nouvelle manière de penser et de vivre.
Et pour terminer cet entretien, et pour terminer le livre, vous parlez, bah, 25 décembre 1977, c'est la mort de Charlie Chaplin.
Mort de Charlie Chaplin, qui me semble extrêmement symbolique et disons forte de cette année-là. Comme si, en fin d'année, voilà Charlie Chaplin qui incarne une sorte de génie, c'est peut-être pas le mot, mais une sorte d'humanisme, pour le dire un peu vite, même si le mot est un peu galvaudé, quelque chose comme ça, d'une générosité, meurt, s'éclipse, et du coup, c'est une manière comme si avec lui, l'année 77 s'enfuit, et finalement, un nouveau monde sans lui existe, et les temps modernes qui sont aujourd'hui les temps postmodernes, dont je parle dans le livre, parce que le terme postmodernité s'invente à ce moment-là, on rentre dans un nouvel âge, et de sa manière sans lui, et tout est réinventé, et un peu triste sans lui, justement.
Vous dialoguez avec vous-même aussi à l'intérieur de ce livre-là, on peut le dire.
D'une certaine manière, enfance. Un peu, ouais, probablement.
Ouais. Merci, cher Jean-Marie Durand, et pour l'enthousiasme avec lequel vous présentez ce livre. Vous êtes arrivé comme une fusée, comme une bombe, explosion. Vous êtes à la fois le bouquet final et le premier feu.
Ah, c'est bon. Merci.
C'est chez Robert Laffont.
C'est ça.
C'est Robert Laffont, personnellement.
Chez lui-même.
Merci,
finalement. Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Je tiens, cette émission est tenue. Il y a un capitaine à la barre de ce navire. C'est un sale boulot, mais j'ai décidé de l'assumer. Et je lance maintenant, chers auditeurs et auditrices, qui est la version féminine du premier mot, le journal de 8h. J'assume que nous soyons 54 secondes en retard. Vive la République, vive la France.
Radio Nova.
Il faut juger à froid et agir à chaud, disait l'écrivain et poète Paul Valéry. On va donc pouvoir bien juger cette semaine.
Non, c'est pas ça. Non.
Voilà.
Paul Valéry ne disait pas exactement ça.
Ouais,
il disait
autrement.
Mais enfin, oui, il disait ces
mots-là.
Mais si, les mots sont justes.
Les mots sont justes, il avait juste toussé.
Mais pas comme ça, Thierry. C'est pas mon Paul Valéry.
C'est pas mon Polo.
C'est pas lui. Il le disait. C'était pas un faux incitatif, c'était pas directif. Il faut, il y avait l'hésitation.
Ah oui,
il y avait du charme.
C'était plus comme ça.
C'était il faut. Allez, continuons.
Juger à froid.
Oui, mais il n'y avait pas de jugement dans son juger.
Et agir à chaud.
Oui, mais c'était plus, je dirais, à la place de Paul Valéry, c'était plus il faut juger à froid. Mais ah, agir à chaud. Et il y avait de l'espoir après. Et agir à chaud. Vous voyez ce que je veux dire, Thierry?
Ah là, c'est
plus
sûr, mon polo.
C'est plus lui. Et agir à chaud. Il y a une pensée et puis il y a de l'espérance au début, vous voyez, à la fin. Enfin, on se comprend.
Oui, on se comprend.
Je sors du journal, pardon.
En tout cas, on va donc bien pouvoir juger cette semaine, puisqu'une vague de froid arrive de Sibérie, qui va s'abattre sur le pays. Il fait déjà plus froid ce lundi, hein, vous l'avez remarqué. Ce sera encore pire demain, jusqu'à la fin de la semaine. On annonce quand même du moins 15, moins 20 hein, sur l'est du pays.
Vous ouvrez le journal avec la météo.
Juste
c'est
brièvement.
Très culotté, moi j'aime beaucoup. Ah, oui. J'aime beaucoup.
C'est une jolie galipette qui est assez réussie.
Je me suis dit, allez, je prends des risques.
Le gars du culot. Ah, le gars est.
Ah, non, on est des dingues. Hein.
Non, mais moins 15, moins 20, c'est une information importante.
Merci, Ménès. C'est intéressant, votre commande. Sortons tous du journal, on lui fout la paix.
C'est historique en plus. Après, je me permets un truc encore plus fou. Je me permets une transition un peu dingue. Froid ou pas, ils sont chauds, les chauffeurs de VTC contre Uber.
Je me mêle plus de rien.
Pardon. Après 3 semaines de trêve, ils sont de nouveau appelés à se mobiliser ce lundi matin à Paris, plus précisément place de la Bastille. À côté, là, les aéroports ne seront pas concernés parce que selon les syndicats, de VTC, c'est trop impopulaire de les bloquer. Les chauffeurs continuent de réclamer une hausse de leurs revenus. Plus enlevés, plus tendus, plus acerbes, certainement plus compliqués aussi pour Manuel Valls, qui a concentré toutes les piques de ses adversaires. Le deuxième débat de la primaire à gauche hier soir a confirmé la montée en puissance de la campagne à une semaine d'un premier tour qui s'annonce encore très indécis en fait. Les candidats se sont notamment opposés hier soir sur l'immigration, sur le cannabis. Comme lors du premier débat, plus de 1000 téléspectateurs ont été interrogés après l'émission. C'est Arnaud Montebourg qui a été jugé le plus convaincant à hauteur de 29%. Mais chez les sympathisants de gauche, en revanche, c'est Benoît Hamon qui a été le plus convaincant à hauteur de 30%. Devant Manuel Valls, 28% et Arnaud Montebourg, 24%. La solution à deux États réaffirmée dans le conflit israélo-palestinien. À 5 jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, François Hollande a clos hier à Paris une conférence internationale qui a rassemblé quelques 70 pays. Sans les israéliens ni les palestiniens. Ces derniers, les palestiniens, se sont félicités des conclusions de la conférence. À l'inverse, pour Israël, c'est une tentative artificielle de personnes hors du Proche-Orient qui éloigne la paix. L'OTAN est obsolète, déclaration de Donald Trump, le président américain qui entrera officiellement en fonction vendredi, a accordé deux interviews à deux quotidiens, un allemand, Bild, et un britannique, le Times. Il reproche aux États membres de l'OTAN de ne pas payer leur part de la défense commune et de se reposer sur les États-Unis. Il estime en outre qu'Angela Merkel a commis une erreur catastrophique en ouvrant les frontières de son pays aux réfugiés. Enfin, concernant le Brexit, il affirme que ce sera un succès et il espère conclure rapidement un accord commercial avec le Royaume-Uni. Le Parlement turc approuve en première lecture une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Erdogan. C'est-à-dire que ce dernier aura le pouvoir, si le texte arrive à terme, de nommer ou de limoger les ministres, tandis que le poste de Premier ministre, lui, sera tout simplement supprimé. La semaine dernière, une rixe avait éclaté au Parlement lors de l'examen du texte. Les députés en étaient venus aux mains et l'opposition dénonce une dérive autoritaire du président. Un bateau-usine japonais qui venait de tuer une baleine a été pris sur le fait dans l'Antarctique, par Sea Shepherd. La célèbre ASSO a réussi à prendre des photos d'une baleine morte sur le pont du navire. Sea Shepherd précise qu'en voyant les militants de l'association approcher en hélicoptère, l'équipage du bateau s'est empressé de déployer une bâche pour couvrir la baleine et les harpons. Le navire se trouvait alors dans une région des eaux australiennes où toute chasse à la baleine est pourtant interdite. Le décès du grand avocat pénaliste Paul Lombard. En plus d'un demi-siècle, il est intervenu dans plusieurs des plus grands dossiers de l'histoire criminelle française, de l'affaire de Bruet en Artois à celle du petit Grégory. Le mondial de handball, l'équipe de France a battu la Norvège hier 31-28 et l'équipe de France sera opposée à la Russie demain, c'est en huitième de finale. La Ligue 1 de football, hier soir, Monaco est allé s'imposer 4-1 sur le terrain de Marseille. Auparavant, Nice n'a pu faire que match nul, 0 partout face à Metz. Résultat, Monaco prend la tête du classement devant Nice. Si tout se passe bien, après 70 jours en mer, Armel Lecléache et Alex Thompson devraient arriver au Sable d'Olonne jeudi dans la journée. On termine avec le retour de la série Twin Peaks. Ça va se passer le 21 mai prochain sur la chaîne américaine Showtime, soit 25 ans, 7 mois et 3 jours plus tard. Les 30 premiers épisodes de Mystère à Twin Peaks avaient été diffusés en 90-91 et le programme est souvent considéré comme pionnier dans la transformation du monde des séries. Le premier épisode, il va durer 2 heures et la saison comportera 18 épisodes au total.
Merci Titi Pompon. Rappelez-vous, tout à l'heure en studio, vous entendiez ce son-là. Ah oui. Nous vous avions demandé d'appeler au 01 43 07 58 85 pour déceler quel était ce son. Beaucoup d'appels, un au hasard. Ah, j'aime bien le jeu dont l'intitulé est un peu...
Oui,
donc ce son-là...
C'est trop dur.
Ce son-là...
C'est dur. Hein.
01 43 07 58 85. Nous voulons votre avis. C'est l'interaction de l'émission. La météo.
La météo
de Tito. Tito El Frances. Tito le...
Ah oui, quand même. Aujourd'hui, à Paris, il fait entre moins 2 et 3. À Marseille, entre moins 2 et 7. À Lyon, moins 2 et 1. La Rochelle, 4 et 8. Il pleut à Brest, il pleut à Biarritz, mais... Lola et Lola.
Il fait chaud dans
nos cœurs. C'était Tito. Qu'est-ce qui se passe, Eugénie? Des appels de partout. Je vous vois au téléphone. C'est qui? C'est, on est exactement dans la rue. Quelqu'un sur le son? Ce son-là, c'est quoi? Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. C'est pour le son.
Alors, c'était ça, ce son, en effet, en studio. C'est quoi, à votre avis?
Eh bien, vous êtes en train de tapoter votre feuille avec votre stylo.
Mais c'est...
Ah, vous avez gagné. Générique de gagnant.
C'est vrai. J'étais... Je l'avoue, devant tous les auditeurs, j'étais en train de tapoter ma feuille avec mon stylo. On vous garde en ligne, on vous promet monts et merveilles qu'on ne tiendra pas. On vous garde en ligne, à tout de suite.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup. 7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission? Mais c'est beaucoup trop court.
Ah, qu'elles sont jolies les pubs de mon pays. Là. Merci Tito. Il est 8h10, le grand gagnant du fameux jeu Sachez reconnaître un bruit en studio, c'est Michel. Michel, vous êtes en voiture?
En voiture.
Donc dans votre voiture, ouais. Vous écoutez Nova?
J'écoute Nova depuis ce matin.
Et vous avez, et pourtant c'est pas facile en voiture parce qu'il y a les sons de la voiture qui se mêlent.
Il y avait de la pluie, il y avait les sons de la voiture, mais bon, avec la technologie embarquée d'aujourd'hui, ma foi, tout est possible.
Vous avez vraiment l'oreille juste, Michel. On sent l'homme le musicien, peut-être, enfin l'homme qui est à l'écoute.
Écoutez, beaucoup de flûte, beaucoup de pipeau, du violon à mes heures perdues et
oui, comme tout le monde,
de la,
oui.
De la batterie.
De la batterie. Michel, vous êtes où? Sur quelle route êtes-vous, là?
Là, je suis sur Bordeaux, sur la rocade.
Alors, la rocade de Bordeaux, qui est souvent encombrée, puisque là, les heures de bureau vont approcher.
Eh oui, malheureusement, encombrée. Mais bon, je traverse Bordeaux rapidement et je me dirige vers Caen.
Alors, on part sur Caen, donc c'est pas du tout la direction Mérignac. Hein, c'est vraiment, on part sur du nord, du nord-nord-est.
Ah ben non, mais là, on est en direction de Libourne même.
Ah, vous êtes déjà sur la route de Libourne. On est avec Tito, qui est justement notre bordelais de... Mais qu'est-ce que vous faites là, Michel, sans indiscrétion? Vous fuyez quelque chose?
Non, je vais vers mon destin. J'avance droit vers mon destin professionnel.
Alors, il est face à vous, mais à chaque fois que vous retournerez, il sera derrière vous, vous le savez, Michel.
Ah oui, chaque seconde passe, oui. C'est déjà, d'ailleurs, notre conversation va pas tarder à faire partie du passé.
Bien sûr, sauf la suite qui reste à venir, bien sûr. Michel, vous êtes seul dans cette voiture, est-ce que vous êtes en costume? Est-ce que, je ne connais pas votre métier, mais est-ce qu'il nécessite le port du costume-cravate?
Costume sans cravate, non, pas de costume. Un jean, des chaussures quelconques et une chemise repassée fraîchement ce matin, et voilà.
On est sur de la vente, on est sur quoi?
Ah oui, on est sur de la vente, on est sur de l'accompagnement de vente, on est sur du développement réseau, on introduit un produit moderne et innovateur pour les machines de travaux publics.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Steelbrist.
Alors, commencez à acheter du Steelbrist, auditeur, auditrice, allez-y, allez demander dans tous les revendeurs Steelbrist.
Voilà, exactement, ils sont nombreux en France, vous les trouverez sur notre page,
voilà. Steelbrist.fr. Et ben voilà, un petit peu de pub, ça nous fait plaisir, puis si on peut toucher quelque chose là-dessus... Bonne route, Michel. Bonne route. Salut. Salut.
Allez, à bientôt.
À bientôt. On continue après la route de Bordeaux avec de la publicité masquée. Voici maintenant Jacques Souvent dans la rue, dans la région parisienne. Jacques, on est où?
On est à la préfecture de police de Paris et j'ai croisé vraiment une file d'attente assez longue. Et ici, on attend pour le bureau d'immigration et je suis avec Ibrahim. Qui est là pour le renouvellement de sa carte de séjour. Alors c'est un peu, c'est pas forcément joyeux.
Oui, bonjour.
Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour.
Vous attendez depuis combien de temps?
Depuis 7h10 du matin.
Et d'habitude, c'est la dernière fois, vous aviez dû attendre combien de temps?
On va dire 1h30. Ouais.
1h30?
Oui, 1h30, oui. Parce que plus tôt qu'on vient, mieux c'est. Si on va faire une longue queue. Et après, pour vacances et occupations, autant venir un peu plus tôt.
Alors, racontez-nous, votre carte, elle est expirée, elle va expirer ou elle est déjà expirée?
Elle est expirée depuis mars dernier. Donc, entre-temps, j'ai pris des récépissés parce qu'il y a des documents qui manquent. Et enfin, pour des détails, ils me renvoient. Donc, c'est par rapport à ça. Et au jour d'aujourd'hui, mon récépissé vient de finir depuis vendredi 13.
Ils vont vous le renouveler automatiquement ou il y a une petite anxiété qui ne le fasse pas?
Normalement, si, parce que là, le dossier est complet. Normalement, en principe, ça doit être renouvelé. Mais après, on ne sait jamais. Des fois, tout est complet, c'est compliqué, ils compliquent les choses. Donc, il y a toujours le stress.
Et avec les récépissés que vous avez en ce moment, vous pouvez trouver du travail? Vous avez le droit de chercher, de trouver du travail en France?
Oui, avec le récépissé, c'est juste c'est la prolongation de la carte, donc ça ne change rien. Je peux travailler, je peux faire ce que j'ai avec le récépissé. Mais sauf que 3 mois, c'est stressant.
Donc, tous les 3 mois, il faut revenir, donc il y a un stress?
Oui. Moi, là, j'espère que cette fois-ci, ils vont me faire la carte et que je n'aurai pas à revenir tous les 3 mois.
Bon, bah, écoutez, on espère aussi. Vous avez du boulot, là, en ce moment?
Non, actuellement, je suis en formation en tant que technicien réseau informatique.
Bon, bah écoutez, on vous souhaite le meilleur. Il y a déjà Jacques Souvent à côté de vous. Vous pouvez, si jamais vous avez de la colère à faire passer, vous pouvez tout à fait vous servir de son torse comme punching ball.
Hein? Non.
Vous avez apporté un casse-croûte pour la queue?
Non. Je suis venu comme ça, non. Après. Juste après le rendez-vous.
Et quand ce type est arrivé devant vous avec un micro, vous disant vous êtes à la radio, vous trouvez que c'est normal, vous? Il a l'air normal, ce type-là.
Bah oui, il est sympa, c'est quelqu'un de sympa.
Bon. Eh ben écoutez, Jacques?
Oui, non, il, monsieur, je l'appelle double mètre parce qu'il fait 2 mètres 13, j'en sais rien, 2 mètres 14. Et moi, je suis tout petit à côté.
Est-ce qu'il pourrait manger sur votre tête? Souvent, on dit que les gens très grands pourraient manger sur nos têtes. Est-ce que c'est une proposition que vous pouvez lui faire?
Je pense que c'est possible. En tout cas, moi, je tends le bras au maximum, là.
Vous êtes à bout de bras?
À bout de bras.
On vous laisse. On vous souhaite bonne chance, les gars. Salut.
Salut.
À la demande quasi générale, je vais désannoncer ce titre.
Merci, Armel.
Deux rappeurs, Avelino et Tix Daughter. C'était Ring the Alarm sur Nova.
Merci. Il est 8h19. Pendant le morceau, Christophe Méné, je me demandais si on vous Google, on trouve quoi?
Pas grand chose.
Oui. Hein,
pas grand chose. On voit trois photos. Il y a une vidéo aussi avec Mémen. Oui.
Et vous
on
googlez,
est pas frais. On n'est pas frais.
Vous googlez parfois?
Non,
des soirs de solitude.
Non, j'évite.
Hein, faut pas se googler. Hein.
Jamais.
Pas trop. Je le dis aux auditeurs, ne vous googlez pas. Soyez surpris.
Ça me renvoie trop. Bon.
Vous saluez votre
comme voisine. Disait un roi africain, ferme ton Google.
Ouais. Non, ça non. Non, non.
Non, c'est pas aujourd'hui.
J'ai rien compris le rapport avec l'Afrique.
Oui, aucun.
Je te demande de sortir.
D'accord.
Je te demande sans agressivité. Voilà. Je te frapperai sans haine ni colère comme un boucher. Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour Edouard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, dans la revue de presse, je me suis intéressée à la rumeur qui gonfle et qui enfle. Depuis quelques jours, ça a échappé à la plupart d'entre nous, il y a une bataille parlementaire qui se joue à propos de l'île de Tromelin. Une bataille parlementaire et médiatique. L'île de Tromelin, c'est dans l'océan Indien, une île rongée par le vent, où on peut s'abriter nulle part. Et c'est La Croix qui raconte cette bataille ce matin. C'est une île qui a aussi une histoire tragique, racontée dans la très belle BD Les esclaves oubliés de Tromelin, de Savoya. L'auteur Savoya avait suivi une expédition archéologique à la recherche des traces de cette histoire. Alors je vais vous la raconter. À la fin du XVIIIe siècle, un navire négrier français fait naufrage sur l'île. L'équipage y est là avec une cargaison d'esclaves malgaches à bord. Il les oblige à fabriquer un bateau, puis l'équipage prend le bateau et abandonne une soixantaine d'esclaves sur ce tas de cailloux particulièrement hostiles. Le chevalier de Tromelin, en leur faisant coucou de la main, il est en charge de l'expédition, leur promet qu'ils reviendront les chercher et il met 15 ans à tenir sa promesse sur l'île. Quand ils reviennent, il ne reste que 8 personnes, 7 femmes et un tout petit enfant.
Mais il revient 15 ans après.
Il revient 15 ans après et il reste donc 8 personnes. Donc Savoya le confirme, lui qui est allé en expédition sur l'île avec des archéologues, cette île est un enfer. Donc ça c'est pour l'histoire de l'île. L'article de La Croix est moins romanesque et un peu moins tragique. En fait, ce petit bout d'île pourrit les relations entre la France et l'île Maurice depuis près de 40 ans. L'île Maurice réclame la souveraineté dessus et sur les eaux qui l'entourent. C'est ça qui embête un petit peu la France parce que c'est surtout les eaux autour qui sont importantes. Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande se sont attelés à la tâche et ont fini aujourd'hui par proposer un projet de co-gestion de l'île entre la France et l'île Maurice. Et ça fait hurler monsieur Philippot, FN, qui, tiens, nourrit une passion tenace pour les territoires hérités de l'Empire colonial. Trois parlementaires s'indignent de cette co-gestion, disent que la France s'affaiblit. On leur répond que ça ne veut pas dire que la France abandonne ses eaux territoriales. Hein, co-gestion ne veut pas dire abandon de la souveraineté. Trop tard, la rumeur a enflé sur Internet. Co-gestion est devenue abandon. Dans La Croix encore, il y a un dossier.
Oui, vraiment, tout fout, la France fout le camp, voilà, est en train d'abandonner les confettis de l'Empire.
De
c'est pas vrai, non. Mais
une grosse bataille hein, qui a lieu en cours. Il y a un dossier spécial bilan Obama dans La Croix aussi. On y lit entre autres que l'Obamacare est ce que Barack Obama a accompli de plus important pendant ses mandats. Le système n'est pas parfait, lit-on. C'est un compromis bancal pour faire plaisir aux républicains qui l'ont boudé, justement, ce plaisir. Mais elle permet à 21 millions d'Américains de plus d'être assurés. Selon l'auteur de l'article, le problème de l'Obamacare, c'est surtout qu'il a été très mal vendu et qu'il a perdu la bataille de la communication. Et là, c'est un post Facebook qui circule beaucoup sur les réseaux, sur Internet, qui illustre très très bien cette guerre perdue. On y voit une Américaine se réjouir très très fort de la disparition de l'Obamacare. Un de ses amis lui dit « Bah écoute, vraiment sympa pour les gens autour de toi qui n'ont pas les moyens d'être assurés, ça n'est pas gentil. » Elle répond « Attends, moi aussi je galère, je te signale que je bénéficie même de l'Affordable Act Care, mais l'Obamacare, je peux te dire que c'était pourri et c'est une bonne chose que ça disparaisse. » Et là, son interlocuteur s'étrangle, lui dit « Quoi ? What ? Seriously ?» en majuscule. L'Affordable Act Care, c'est l'Obamacare, c'est le nom que lui ont donné les Républicains pour que des gens comme toi le détestent automatiquement. Comme quoi, la stratégie de communication la plus simple du monde a payé. La rumeur a enflé. L'Affordable Act Care est devenu l'affreux Obamacare.
Ah, c'est ça, c'est Obamacare, c'est une invention des Républicains pour dire c'est Obama lui-même.
Oui,
qui, ah oui,
donc
c'est son
méchant,
caprice.
Donc c'est pas bien. Et beaucoup ont voté donc contre leurs propres intérêts. Dans Le Monde, on lit quasiment en première page le portrait d'une femme qui fait de ses rumeurs tapis puis enflante plus bruyante son business et son outil. Il s'agit de Margarita Simonian qui gère RT, Russie Today et Sputnik, deux médias russes financés par le Kremlin, souvent accusés de désinformation. Elle répond liberté d'expression. La CIA l'accuse d'avoir largement participé à l'ingérence russe dans les élections américaines. Elle répond dans une lettre ouverte à la CIA. Elle relève quelques erreurs du rapport mais ne nie pas grand-chose et elle écrit quand même « Dans mon école du KGB, vous auriez été fouetté avec une branche de bouleau pour une telle incompétence, ce qui est assez douloureux. »
Sputnik, c'est comme le Gorafi en pas drôle un peu.
C'est ça, un petit peu. En tout cas, s'il y en a une qui ne se contentait pas de rumeurs mais vérifiait tout sur le terrain, c'est la formidable reporter de guerre disparue hier à l'âge de 105 ans, Claire Hollingworth, dont le premier fait d'armes est d'avoir couvert l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939 avant tout le monde. Formidable portrait à lire dans le Figaro de cette femme qui avait l'air assez indestructible, très libre, qui a repris sa retraite à 70 ans, mais qui continue et qui continuait, pardon, je cite, à dormir par terre pour pas se ramollir.
Pas mal, vaste programme. Merci, chère Marie.
De rien.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Ah, ah. Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Alors, il y a un feuilleton qui a démarré ici jeudi dernier. Bouchta, notre correspondant marseillais, a commencé à nous raconter les aventures de sa sœur. Et ça devient la telenovela. On va écouter la suite, mais tout de suite un résumé des épisodes précédents.
Elle avait d'abord un mari, elle a eu trois maris. Elle est partie pêcher à 17 ans, elle n'aime pas travailler. Ouais. Et elle a commencé à courir les casinos, discothèques à la recherche du milliardaire. Et elle a trouvé. Le mec, il arrive vers elle. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, vous voulez boire un verre? Elle a dit, non, c'est bon, moi j'ai mon verre, des verres, on m'a offert plein de verres. Moi-même, je suis une bouteille, qu'est-ce que tu veux? 4 mois après, il a demandé un mariage. Il a abandonné une femme qu'il avait, une chinoise là-bas à Zurich. Elle est passée à la mairie, il a dit oui, elle a dit oui. Et le jour du mariage, il a dit, qu'est-ce que je te fais cadeau pour l'annonce, quoi, pour le mariage. Mariage sans contrat, bien sûr, heureusement, mariage de Napoléon. Elle lui a dit, écoute mon poussin, si tu veux un cadeau, je veux un seul, tu m'achètes cet appartement. Et lui, il était content. Il s'est mis en méthode vibreur, il était tellement content, il est rentré en vibration. Elle l'a tout de suite calmé, elle l'a mis en mode silencieux. Le mec, il a rien compris. Pendant 6 ans, mode silencieux. Tu sais comment il faisait? Elle m'a dit, je te jure, la dernière année, il volait. On dirait que je l'avais mis en mode avion. Donc, écoute, mon poussin, à la 6e année, mode avion, il a pris son envol. Elle a dû demander le divorce. Et finalement, elle a eu l'appartement son nom. Elle était contente. Elle a divorcé. Et encore, ça, c'est le troisième mari. Il faut se raconter le deuxième, le russe.
Tu nous racontes lundi la suite. Et oui, Bouchta, la suite.
Bonjour, mon poussin.
Ça va, Bouchta?
Ça va, t'as dit ma sœur, c'est pas ma sœur, c'est ma sœur de cœur, ma cousine.
Ta cousine, j'ai dit ta sœur, excuse-moi, ta cousine. Donc ta cousine mariée à ce russe qu'elle a fait attendre, qui lui a offert un appartement à Monaco.
Non, c'est pas un russe, t'as dit. Lui qui l'a offert l'appartement à Monaco, c'est un Suisse.
Ah.
Riche, il avait plein de banques, à Zurich. C'est lui qui l'a acheté la belle baraque.
D'accord, ça. Et c'est...
Après, le...
Oui, je te suis, je t'écoute.
Voilà, c'est lui qui a fait la belle baraque, elle a divorcé, elle a fait le mariage halal avec Albert et compagnie. Et après, elle est restée tranquille chez elle. Mais avant lui, elle avait 2 autres maris, lui c'est le troisième.
Le Suisse.
T'as compris ?
Le Suisse.
Voilà. Alors on va arriver au deuxième.
Alors attends, là c'était le troisième, le Suisse qui lui donnait le bel appartement, mais elle n'a pas tout de suite, quand elle arrive à Monaco, elle n'est pas tout de suite tombée sur le Suisse.
Bravo, tu comprends vite, hein, on dirait que tu tiens ta peine de luxe. Bon, je reviens.
C'est le cas.
Bon. Alors, je reviens. Elle, au départ, comme je te disais, elle était à Beau Soleil, elle voulait traîner à Monaco. C'est pas facile, c'est difficile, Monaco, trop, ça arrive comme ça. Et entre-temps, elle est partie à Cannes. Tu sais qu'il y a des saisons, festival de Cannes. Tu sais que là-bas, à la Côte d'Azur, il y a toujours un endroit où il faut que tu prennes le train, paf, tu vas attraper les pigeons. Et elle arrive à Cannes, elle s'installe à Cannes, tout va bien, elle danse, elle s'amuse dans toutes les boîtes comme à Monaco. Et d'un coup, il y a un Russe qui la repère. Un Russe. Oui. Oh gosse, elle m'a dit, Bouchta, tu pètes les plombs, rien qui dépasse, les yeux bleus, la fossette, les costards, les cheveux, à mourir. Elle qui croyait pas à l'amour, mais elle y croit toujours pas. Le mec, il la croise, il a vu qu'elle était un peu spéciale comme fille, parce qu'elle était un peu comme la patronne de la boîte.
C'est-à-dire ?
Parce qu'elle, elle danse pas, elle fait ce que danser elle va, elle repère les tables, qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est sorti, quel tapin, qui a ramassé, qui a pas ramassé, qui est la nouvelle, qui est pas la nouvelle. On dirait la gérante de la boîte. Elle danse tout en bousculant les filles, tu vois, elle slalom, elle tourne, elle promène. Et lui, il a remarqué. Il vient vers elle, lui dit bonjour, voilà, combien, on va. Elle dit ok, on va juste en haut à la chambre, à l'hôtel Martinez, j'en sais rien. Finalement, elle arrive dans la suite, elle était maigre, elle m'a dit je faisais 47 kilos, j'étais fatiguée, là, à gauche, à droite, j'étais morte. Je rentre dans la chambre, le mec, elle dit qu'est-ce que je fais ? Je me déshabille, elle dit non, reste habillée. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux ? Elle dit, écoute, le temps, c'est de l'argent. Une heure, c'est une heure. Le mec, il pose l'argent sur la table et il veut parler. Il dit, ah, si tu veux parler, alors fais vite. Hein. Parce qu'elle crie à Katamba. Il commence à parler. Elle lui dit, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu parles avec moi ? Pourquoi tu cherches ma vie ? Je fais pas. Et après, elle dit, merde, je me détends, t'es fatigué. Il a vu qu'elle avait faim. Il lui a dit, tu as faim ? Elle a dit, oui. Elle dit, je crevais la dalle. Il a pris le téléphone, il a fait monter la bouffe au gambas, pangambas, caviar, alors, tout. Alice au pays des merveilles. Elle s'empiffre, elle commence à prendre un peu de couleur et lui, il parle avec elle. Il dit, écoute, je t'ai choisi parce que tu es maligne. Ah, et alors ? Elle a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut faire quoi ? Non. Elle a dit, moi, je reste que dans la cuisine. Je ne change pas de métier. Le mec, finalement, il est gentil avec elle. Il lui raconte sa vie. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Au mec, quel boulot il fait ? Quand elle a entendu qu'il était russe, elle a compris. Déjà, russe à Cannes, c'est un métier. Elle n'a pas cherché à comprendre. Il a posé de l'argent, qu'il a donné le double. Et finalement, il la revoit. Et un jour, il vient, il lui dit, écoute, ma belle. Et il n'a pas baisé avec elle. Hein. Mm. Il dit, écoute-moi, ma belle, écoute, tu ne veux pas changer de vie ? Et elle dit, oui, j'aimerais changer de vie. Et ma mère dans le quartier nord pourri, j'aimerais lui changer l'HLM, lui faire les travaux, lui faire ci, lui faire ça. Elle est sourde, j'aimerais lui faire ci. Bon, bref.
Bon, bouge ta la suite. Il faut faire la suite demain, tu sais.
Hein ?
Il faut faire la suite demain, il faut rester sur le suspense.
D'accord, monsieur.
Donc on en était avec le russe qui veut lui faire changer de vie. Hein. Le deuxième mari, le russe, veut lui faire changer de vie.
D'accord, mais le deuxième mari, attends. Avant de partir, il lui dit, écoute ma chérie, je vais te changer la vie, il pose sur son lit, 300 000 euros.
Oui, c'est un changement, oui.
Voilà.
Gros changement.
Et demain, je te raconte la suite.
Demain, on est dans le lit avec 300 000 euros de suite. Merci, Bouchta.
Au revoir.
Radio Nova.
C'est la vie. Non, j'appelle, oui. Alors, c'est le journal maintenant. Je suis un peu perdu. J'étais sur la côte avec une dame qui. Ouais, pas bon. À tout de suite.
Des Russes, 300 000 euros.
Une chose facile à avoir au mois de décembre, c'est du sang-froid, disait l'écrivain Alphonse Allais. Une vague de froid qui arrive de Sibérie va s'abattre sur le pays. Il fait déjà plus froid ce lundi. Ce sera encore pire demain jusqu'à la fin de la semaine. On annonce quelque chose d'un peu historique. Hein. On annonce jusqu'à du moins 15, moins 20 sur l'est du pays. Froid ou pas, ils sont chauds, les chauffeurs de VTC contre Uber. Après 3 semaines de trêve, ils sont de nouveau appelés à se mobiliser ce lundi matin à Paris, plus précisément place de la Bastille. Les aéroports ne seront pas concernés parce que c'est trop impopulaire de les bloquer. Les chauffeurs continuent de réclamer une hausse de leurs revenus. Plus enlevé, plus tendu, certainement plus compliqué aussi pour Manuel Valls, qui a concentré toutes les piques de ses adversaires hier lors du deuxième débat de la primaire à gauche. Un deuxième débat qui a confirmé la montée en puissance de la campagne à une semaine d'un premier tour qui s'annonce toujours aussi indécis. Les candidats se sont notamment opposés hier soir sur l'immigration et le cannabis. La solution à deux États réaffirmée dans le conflit israélo-palestinien à 5 jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. François Hollande a clos hier à Paris une conférence internationale qui a rassemblé quelques 70 pays. Mais sans les Israéliens ni les Palestiniens. Ces derniers, les Palestiniens, donc, se sont félicités des conclusions de la conférence. À l'inverse, pour Israël, c'est une tentative artificielle de personnes hors du Proche-Orient qui éloigne la paix. L'OTAN est obsolète, déclaration de Trump. Le président américain qui entrera officiellement en fonction vendredi a accordé une interview au quotidien allemand Bild et au quotidien britannique le Times. Il reproche aux États membres de l'OTAN de ne pas payer leur part de la défense commune et de se reposer sur les États-Unis. Il estime en outre qu'Angela Merkel a commis une erreur catastrophique en ouvrant les frontières de son pays aux réfugiés. Et puis enfin, concernant le Brexit, il affirme que ce sera un succès et il espère conclure rapidement un accord commercial avec le Royaume-Uni. Le Parlement turc approuve en première lecture une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président Erdogan. Ce dernier aura le pouvoir de nommer ou de limoger les ministres, tandis que le poste de Premier ministre sera, lui, supprimé. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du président. Selon l'ONU, la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques générés en Asie a augmenté de 63% en 5 ans. Et l'ONU de lancer un appel à l'amélioration urgente des procédures de recyclage et de retraitement. Ce sont les Hongkongais qui en génèrent le plus, avec en moyenne près de 22 kilos par personne et par an. Singapour et Taïwan arrivent derrière avec 19 kilos. Le Cambodge, le Vietnam, les Philippines sont en revanche ceux des pays étudiés qui génèrent le moins de déchets électroniques, moins de 1,5 kg par personne. Le linguiste Zhu Yuguang est décédé ce week-end à Pékin. Il avait 111 ans. Il était rien de moins que l'inventeur du pinyin, la transcription du mandarin, sa romanisation pour permettre sa lecture par ceux qui ne maîtrisent pas les caractères chinois. Le système a été introduit dans les années 50 en République populaire de Chine et s'est imposé dans le monde. Ce système a permis aux aveugles chinois de lire le braille et aux caractères de pouvoir s'inscrire en fait sur les claviers d'ordinateur. Le décès d'un grand avocat pénaliste, Paul Lombard, en un demi-siècle, un peu plus d'ailleurs, il est intervenu dans plusieurs des plus grands dossiers de l'histoire criminelle française, l'affaire Bruet en Artois notamment, ou encore celle du petit Grégory. Le mondial de handball, l'équipe de France a battu la Norvège hier 31-28, les experts sont premiers de leur groupe et ils affronteront les Russes demain en 8e. La Ligue 1 de football, hier soir, Monaco est allé s'imposer 4-1 sur le terrain de Marseille. Auparavant, Nice n'a pu faire que match nul 0 partout face à Metz. Résultat, Monaco prend la tête du classement devant Nice et le Paris Saint-Germain. Si tout se passe bien, après 70 jours en mer, Armel Lecléache et Alex Thompson devraient arriver au Sable d'Olonne jeudi dans la journée. C'est le Vendée Globe. Et puis on termine avec le retour de la série Twin Peaks. Ça va se passer le 21 mai prochain sur la chaîne américaine Showtime. Le programme est souvent considéré comme pionnier dans la transformation du monde des séries. Après avoir annoncé qu'il ne réaliserait pas cette série pour des raisons financières, finalement il a accepté, David Lynch. Voilà.
Merci Thierry Paré.
Nova.
Nova.
Où en est Jack souvent dans ses pérégrinations matinales? Oh la merde, il y a une baston.
Non, je suis un peu nulle part là. En vérité, j'étais en train de rentrer vous voir.
Il y a un bruit de verre là.
Oui, c'est les containers pour les bouteilles qui sont vides.
Mais pourquoi vous êtes allé dedans? Vous allez.
Bah, je shootais dedans. Faut par hasard.
Bah non, c'est pas par hasard qu'on shoote.
Bonjour. Oui. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez gratté? Non, elle n'a pas gratté. Elle a pas gratté. Moi, je suis en train d'arriver là.
Elle devait gratter quoi, cette dame?
Elle avait un.
Son nez, un tic-tac, hein?
Elle avait un petit ticket.
Un ticket du matin, oui.
Il y a un enfant. Il y a un enfant qui est tout seul là.
Ah oui.
Dans une poussette. Ah non.
Non.
Bonjour.
Bonjour.
Vous cherchez quoi dans votre sac?
Les écouteurs.
Ah.
Parce que je ne vous ai pas vu derrière la poussette. J'avais l'impression qu'il.
Bah non, quand même.
Quel âge?
8 mois et demi, mais vous faites quoi?
Oui,
on se rend compte, on se parle.
Belle rencontre.
Bon, je vais y aller, bonne journée.
Ouais, bonne journée,
au revoir. Ouais.
Bon voilà, j'arrive devant la porte.
Ouais, vous y croyez plus là, Jack? Je sens dans votre voix là, je sens que vous portez toute la misère du monde sur vos épaules. Quoi, ça, hein?
C'est le désespoir.
Vous êtes un effondrement, vous êtes une catastrophe, vous êtes un drame.
Oui,
c'est un accident de parcours. Ouais, non, restez dehors, je ne veux pas que vous arriviez dans le studio.
Un cataclysme, je suis à la porte.
Vous êtes
là,
en train d'arriver. Bah, la rentrée, c'était la rue
voilà.
devant l'immeuble de Nova.
Voilà, je suis en train d'arriver. Voilà.
Il est où là?
Ah, on m'ouvre pas là.
C'est rare qu'il est. Non, parce que d'habitude, je ne sais pas, il a. Vous n'êtes plus dans le contact, vous êtes dans le repli.
Je vais à l'accueil.
Vous êtes dans le repli identitaire.
Bonjour.
Bon, c'est l'accueil de Radio Nova.
Ah, c'est une jeune femme qui est au cours Simon à l'accueil. Demandez-lui comment ça va, ses cours.
Attendez, je lui passe un casque, ça va être plus rapide. Vous êtes au cours Simon?
Oui, tout à fait.
Et ça donne quoi?
Écoutez, ça se passe très bien.
Vous travaillez un texte en particulier là.
Qu'est-ce que je travaille en ce moment? Je travaille Cyrano, de Bergerac.
Ah oui.
On écoute un extrait.
Quelle scène?
La scène où Roxane avoue à Cyrano qu'elle est amoureuse de...
Ah, voilà,
Ahmed Khelif en Cyrano.
Fais tous les 8 A. Il y a 8 A, c'est ça?
Comment vous appelez-vous en entier?
Et voilà, j'aime quelqu'un, ça commence là, allez-y. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, mais qui ne le sait pas. Ah, mais qui va le savoir s'il ignore. Ah, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Alors allons-y. Voilà, j'aime quelqu'un.
Voilà, j'aime quelqu'un.
Ah, mais qui ne le sait pas encore.
Qui ne sait pas encore.
Ah.
Non, c'est pas ça.
Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore.
Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore.
Ah.
Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin, sans oser me le dire.
Ah.
Et figurez-vous que tenez, oui mon cousin, il sert dans votre régiment.
Ah.
Puisqu'il est cadet dans votre compagnie.
Oh.
Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est jeune, fier, noble, intrépide, beau.
Beau ?
Elle ouvre la porte.
Vous êtes très bien. Elle est très bien.
Donc cela, c'est un bobo. Magnifique.
Elle est très bien. Le mec qui fait Léa n'est pas bien.
Oui, bah c'était moi.
Ah, c'est vous. Bizarre. C'est pas pour
vous
ça. Ah non, c'est pas bien.
L'enfant, c'était
donc,
pas moi. Mais
oui, c'est pas bien. Hein.
C'est pas bien.
Non, elle est
joué.
Formidable. Vous êtes formidable. Hein. Vous avez beaucoup de grâce, même au micro.
C'est
vous avez beaucoup d'émotion dans votre voix.
J'ai bien aimé.
À part le mec des A que j'ai trouvé très très surfait. À tout de suite.
Bon, on l'engage.
Venez dans le studio là. Viens là. Arrête de. Viens là. Jack Souvent, l'homme qui a traversé quatre océans, des glaciers, qui est monté à pied sur la tour Eiffel, l'homme des égouts, l'homme des tout-terrains, est aujourd'hui à un mètre de moi. Ouais. Une légende en studio. Ouais. Ouais. Jack, je te voyais pas du tout comme ça. Tu sais quoi? On t'a filmé avec toute l'équipe de la caméra cachée.
On était avec toute notre équipe.
Il est super. Je te voyais pas comme
c'est
ça
chaud.
Du tout. Je
te
pensais pas que tu étais si beau. T'as pas un physique radio.
J'ai changé de look là.
Très bien. On met un petit peu de pub, Armel.
Oui, volontiers.
Ça fait toujours plaisir. Ça. Ensuite, on va être avec les jours.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Alors qu'il est 8h45, alors que Jack Souvent est parti juste à côté dans nos studios au Bar Nova, voir la préparation du groupe Les Dark Daughters, nous sommes là, nous, avec Thomas Baumgartner et notre invité Sofiane Fanen pour parler du stream. La musique, le streaming, les sites autorisés, non autorisés, nous allons en savoir plus.
Bah oui, avec Sofiane Fanen qui publie un article sur le site lesjours.fr, la suite de la série La fête du stream, il y a un jeu de mots, je crois, quelque part.
Un petit.
Oui, et.
C'est sur la fête, l'idée de la fête.
Bien sûr. Vrai. Et la suite, c'est autour de cette question, qui est celle des titres rares, en fait. C'est ça le centre de cet article qui est en ligne sur lesjours.fr, Sofiane Fanen. Les titres, les musiques peu connues ou pas encore, en tout cas qui sont petites par rapport aux géants des titres et des hits. Et ce que vous dites dans cet article-là, c'est qu'il y a un rôle, ou peut-être il y avait un rôle des plateformes de téléchargement illégales, qui était de faire vivre ces titres peu connus.
Exactement, ouais. En fait, l'enquête est partie de la fermeture d'un site qui s'appelait what.cd, début décembre, suite à une enquête de la SACEM, donc la grosse société civile qui s'occupe des auteurs-compositeurs. What.cd était lui-même le successeur d'un site anglais qui s'appelait Oink, qui faisait la même chose. C'était des milliers de personnes, vraiment des gros geeks de la musique, mais vraiment, même moi qui ne fais que ça, je les trouvais vraiment beaucoup trop nazis de la musique.
Vous-même, vraiment... vous êtes un geek.
Ouais, un petit peu.
Et, trop pointu alors, c'est ça?
C'était extrêmement pointu, ouais. Extrêmement fermé, c'est-à-dire que c'était exclusivement, il fallait devenir membre, mais genre il fallait connaître un membre déjà qui
fallait
vous invitait, il fallait être coopté, ou alors il fallait passer un entretien qui était odieux, il fallait vraiment il fallait être un ingénieur du son, avoir fait bac plus 12 en son pour réussir cet entretien. Bref, c'était quelque chose d'extrêmement exigeant et ces gens se réunissaient pour rassembler toute la musique du monde au même endroit avec une qualité sonore satisfaisante. Ce qui ils considèrent que la qualité sonore qui est disponible sur le streaming, sur YouTube, etc., n'est pas satisfaisante. Je suis plutôt d'accord avec eux.
Et sans pub.
Et sans pub, sans rien. C'était complètement gratuit, c'était complètement illégal. Hein. Ils étaient complètement en dehors des accords avec la SACEM, les producteurs, etc.
Il y a des plateformes légèrement illégales qui fonctionnent avec de la publicité aussi.
Voilà, mais elles sont un peu moins, je les considère un petit peu moins glorieuses, on va dire. Parce que What.cd comme Oink, c'était vraiment des communautés de partage. Le seul argent qui circulait, c'était des dons qui allaient pour payer les serveurs. On n'a pas encore les résultats de l'enquête et ils n'ont visiblement pas non plus trouvé les administrateurs de What.cd qui se sont cachés. L'administrateur de Oink à l'époque, qui était un Anglais, avait été déclaré non coupable par un jury et on avait trouvé qu'en fait il gagnait 7000 euros par mois pour payer les serveurs et en fait à la fin il mettait ses propres sous. Donc c'est pas non plus une économie de grand banditisme, c'est pas comme Zone Téléchargement qui a été fermée dans la foulée où là c'était effectivement des gens qui affichaient des pubs de sites porno sur leur site de téléchargement et qui s'étaient acheté des Lamborghini et qui habitaient en Andorre. C'est pas du tout la même typologie.
Alors pourquoi est-ce que c'est les disques rares, cette musique rare risque de disparaître après la fermeture de ces sites?
Parce qu'en fait il y a tout un tas, on a l'impression que sur Spotify ou sur Deezer il y a 40 millions de titres aujourd'hui. 40 millions c'est énorme, c'est plus que vous pourrez en écouter dans votre vie. Mais malgré tout, 40 millions, c'est pas grand-chose par rapport à la production de l'histoire de la musique, par rapport à tout ce qui existe et même à tout ce qui n'a jamais existé légalement, en fin de compte. Il y a tout un tas de disques qui n'ont jamais eu d'existence, qui n'ont jamais été vendus en magasin. Et s'ils n'ont jamais été vendus en magasin, ils ne seront jamais sur Spotify, sur Deezer, etc. Il y a des bootlegs de Patti Smith qui sont complètement dingues, qui n'existent pas. Il y a des captations live, il y a des lives de Nova, par exemple, que des gens ont enregistré et qui circulent sur Internet et qui sont sublimes, mais qui n'existent pas, donc qui ne seront jamais sur Deezer, sur ce... Voilà, exactement. Qui seront jamais... Donc voilà. Donc, il y a un trou béant au niveau légal depuis, c'est une vieille histoire, hein, parce qu'au début des années 2000, quand le MP3 est arrivé et que Napster est arrivé et qu'on a commencé à s'échanger des millions de morceaux comme ça sur Internet, ces morceaux étaient là depuis le début. Et en fin de compte, on n'a pas trouvé d'existence légale pour ces titres et aujourd'hui, ils continuent à circuler, sauf que, comme on tue les sites les uns après les autres, mais ils renaissent bien heureusement. En fin de compte, ces morceaux n'ont jamais vraiment d'existence légale. Et c'est la question
que vous
qui est
décrivez
posée.
Là, Sofian Fanen, et qu'on voit dans votre article sur lesjours.fr, c'est que c'est la conséquence d'une concentration de la distribution de la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, dans la musique numérique en tout cas, quelques guichets. Il y a Apple Music, il y a Spotify, il y a YouTube, mais il faut que les choses existent au-delà de ces guichets-là. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous espérez même personnellement?
C'est la question que je pose. Moi, personnellement, je l'espère, oui, mais c'est la question que je pose. À partir du moment où on est en train d'enfermer, c'est vraiment ce qui se passe, faut se rendre compte, on est en train d'enfermer le monde de l'écoute de la musique chez Spotify, Deezer, Apple, Google, enfin, il y en a 3-4 comme ça. En plus, ils vont se racheter dans les prochaines années, donc il en restera 2. Et à côté de ça, on est en train de ne pas laisser vivre des alternatives qui, effectivement, aujourd'hui, n'ont pas de légalité possible.
Pourquoi, d'ailleurs, elles ne sont pas légales? Il ne pourrait pas y avoir des petits sites de proximité, l'équivalent des petits commerces dans le monde virtuel. Il ne peut pas y avoir de petits sites de téléchargement légal.
Non, parce que la SACEM, quand elle voit un fichier qui circule et qui est dans son catalogue, elle dépose une plainte. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, la SACEM, et donc ils font leur boulot. Mais le problème, c'est un problème de loi, et je dirais de philosophie, de politique. Mais c'est des questions qui ont été posées en 2000, 2003, etc., et qui ne sont pas réglées aujourd'hui.
En attendant, donc, il y a cet article à lire que vous signez Sofian Fanen sur lesjours.fr, musique régulée, musique sacrifiée. Et puis, il y a Radio Nova.
Oui, oui, alors, parce que là, on est avec, on est en duplex. Les Dac d'Auteur vont jouer tout à l'heure. Son Jack, ça répète?
Oui, ça répète. J'étais avec Daphné, des Drôles de Dames, qui fait venir les Dac d'Auteur ici. Et elle me disait qu'elles sont toutes comédiennes, en fait, à la base. Elles viennent d'un théâtre à Kiev. Et voilà. Et ensuite, elles se sont mises à la musique. C'est ça, Daphné?
Tout à fait. Oui, oui. Et grâce à Vlad Troïtski qui les a mises en scène et qui ensuite leur a donné aussi une opportunité de faire un concert avec la projection vidéo aussi d'images qui retrace un peu tout ce travail de Vlad.
D'accord, elles sont beaucoup intervenues au moment des manifestations pro-européennes à Maïdan. Mais on va les retrouver tout de suite après la pub. Je vous rejoins. Je vais faire le déplacement, je suis un fou. Merci Sophie.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Alors, Édouard Baird est à côté dans le...
On est à l'antenne, là?
Oui, on est à l'antenne, Édouard.
Je cherche à boire pour les Dac d'Auteur. Hein?
Édouard.
Attends, on est à l'antenne?
On est à l'antenne.
Ah, mais je ne savais pas du tout. Parce qu'on cherche à boire, parce qu'on reçoit. Les Dac d'Auteur ont beau venir d'Ukraine et de Kiev, elles ne sont peut-être pas. L'idée de chanter par moins 10 degrés, on est dans le studio Nova. J'arrive pas à savoir si on est vraiment à l'antenne, mais ça fait partie de la poésie générale du truc. Mesdemoiselles, est-ce que vous allez réussir à chanter, vous pensez, dans ces conditions très difficiles?
Bonjour, c'est première chanson, c'est chanson Cactus. Et c'est pour vous, merci.
Ah, c'est gentil. Et dites-moi, vous chantez dans la rue parfois, vous avez fait des concerts en plein air souvent?
Je comprends français un petit peu, excuse-moi.
Mais tu n'es pas obligé de répondre bien, mais je peux poser une question, tu réponds ce que tu veux.
Okay. Oui, concert et en plein air, c'est très bien aussi.
Voilà.
We love the different formats of our show, we love the different audience, it's all great.
Do you know Rudy Aboab, this French model? Connaissez-vous Rudy Aboab, ce mannequin français?
No, excuse-moi, I don't know him.
Eh bien, vous allez le découvrir, he's a big fan of yours, c'est un grand fan des Dac d'Auteur, il va nous les présenter.
So it's great, we'll become friends today.
Il est, donc tout se passe bien.
Dar en ukrainien signifie le toit de la maison, le toit de la famille, le toit où l'on fait résistance. Nous sommes réunis ce matin sous le toit glacé de cette verrière de Nova avec les Dar d'Auteur. C'est, j'avoue, ressentir encore davantage de frissons que d'habitude. Nos 7 invités, m'impressionnent. J'ai même peur que de m'être plongé dans leur poésie punk, mais déjà transformée en une sorte de passeur politique. Parce que oui, leur art est politique et le but final est de revendiquer en gueulant, en chantant avec force la liberté. Alors si vous ne les voyez pas là maintenant, alors qu'on est connecté sur le Facebook Live de Nova, laissez-moi vous les décrire un tout petit peu. Des femmes, des très belles femmes grimées de blanc, costumées avec des fichus en soie sur la tête, façon Bertolt Brecht, années 30, d'une beauté faite de colère, de dignité, forte comme des gitanes et libre comme nous aspirons tous à le devenir. Une bande de freaks qui par la polyphonie de leur musique et de leur composition, la folie de leur mise en scène, la puissance de leur texte aussi bien personnel qu'emprunté à Shakespeare, Bukowski et consoeurs leur permettent de renverser les rôles et de venir ici ce matin nous cueillir. Mesdames, vous avez carte blanche, lâchez-vous, vas-y, criez, rappez, chantez, vocalisez, pleurez, prenez le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Nous vous suivons.
Attends, on va chauffer. Est-ce qu'il y a du monde ici aujourd'hui? Oui. Allez, on commence à chauffer un petit peu l'ambiance. On y va.
Elles sont au Café de la Danse ce soir. Foncez les voir. Et le premier morceau qu'elles vont nous interpréter de leur nouvel album qui s'appelle If est Cactus.
Cactus.
Dark Daughters, c'est à vous.
Dark Daughters. Allez ce soir les écouter au Café de la Danse, de la douceur cruelle jusqu'à la fureur joyeuse. Merci, l'émission est terminée. À demain.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.